Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 23 Tir, 1401 du calendrier iranien, 14 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Biden vieillit et l'image de l'Amérique vieillissante, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. L'Iran exige des garanties solides pour la relance de l'accord nucléaire. Washington confirme une fois de plus son soutien inconditionnel au régime le plus meurtrier du monde. Et la visite de Biden au Moyen-Orient sert les intérêts d'Israël, selon le mouvement palestinien Hamas. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'il était nécessaire pour l'Iran de tirer des avantages économiques de l'accord de 2015 et il a souhaité donc des garanties solides dans les pourparlers sur une éventuelle relance de l'accord que les Américains ont abandonné unilatéralement 3 ans après sa conclusion. Nous recherchons des garanties économiques solides. Si une entreprise occidentale signe un contrat avec son homologue iranien, elle doit être assurée que son projet serait mis en œuvre et qu'elle recevrait une compensation au cas où de nouvelles sanctions seraient imposées, a déclaré Hossein Amir Abdollahian en visite à Rome dans une interview avec le journal italien La Repubblica. Le diplomate iranien a ajouté que la question des garanties est l'un des plus grands obstacles dans les pourparlers visant à rétablir l'accord nucléaire de 2015. Téhéran affirme que Washington démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au régime le plus meurtrier et le plus infanticide au monde. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le fait que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, accompagne le président Joe Biden lors de son voyage à Tel Aviv fournit une preuve supplémentaire de ce soutien. Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a également tweeté une capture d'écran du collage qui avait fait la une du journal américain le New York Times l'année dernière, montrant des enfants tués de Gaza, victimes des attaques israéliennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que la République islamique d'Iran n'épargnait aucun effort pour aider à mettre la fin à la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran évitera toute mesure susceptible d'aggraver davantage le conflit. Le diplomate a rejeté les allégations avancées par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, selon lesquelles l'Iran s'apprête à envoyer plusieurs centaines de drones vers la Russie pour une utilisation en Ukraine. Amir Abdollahian a pointé du doigt l'Occident pour avoir alimenté la flamme de la guerre entre Kiev et Moscou. Pour lui, ce sont les Occidentaux qui cherchent à vendre leurs équipements militaires aux autres, dont l'Ukraine, sans le moindre souci des conséquences. Le front de la résistance palestinienne Hamas affirme que les propos du président américain Joe Biden à son arrivée à Tel Aviv soulignent son soutien manifeste au régime israélien. Selon le porte-parole du Hamas, Hazem Rassem, les déclarations de Biden sont conformes aux intentions criminelles de ceux qui cherchent à former des coalitions avec Israël. Juste après que son avion a atterri dans les territoires occupés, Biden s'est qualifié de sioniste. Il a également doublé le soutien militaire de Washington à Israël et les liens solides entre Américains et Israéliens. Le premier ministre israélien Yair Lapid a accueilli le président Joe Biden à l'aéroport de Tel Aviv, le qualifiant, pour sa part, de grand sioniste et d'un des meilleurs amis qu'Israël ait jamais connu. Il s'agit de la première étape d'une tournée régionale de 3 jours de Biden, qui le conduira également en Arabie Saoudite. Son administration est critiquée pour ne pas avoir tenu Tel Aviv et Riyad responsables du meurtre respectif des journalistes Shirin Abu Akleh et Jamal Khashoggi. Moscou considère que toute spéculation sur l'arrêt du gazoduc Nord Stream est inappropriée, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. L'arrêt de l'approvisionnement pour une maintenance planifiée est une routine annuelle et le calendrier des travaux a été convenu avec les partenaires, a-t-elle noté. Il s'agit de travaux de maintenance programmés qui seront réalisés du 11 au 21 juillet. Je précise que l'histoire ne commence pas aujourd'hui ni cette année. C'est une routine annuelle dans le cadre d'une gestion à long terme de l'intégrité des installations. Programme pour assurer son fonctionnement efficace, sûr et fiable. Aussi, je tiens à souligner que le calendrier des travaux a été convenu et coordonné avec les partenaires dans le transport et la fourniture de gaz. À cet égard, nous rejetons toute spéculation sur cette question et nous considérons que c'est inapproprié, a déclaré Mme Zakharova. En ce qui concerne les opérations futures du gazoduc, cela dépendra de nos partenaires, a déclaré la diplomate, notant que cela se réfère à des paramètres tels que la demande de gaz et la prévention de l'impact négatif des restrictions illégitimes sur la fonction du gazoduc. La Commission européenne a abaissé jeudi ses prévisions de croissance dans la zone euro pour 2022 et 2023 à respectivement 2,6% et 1,4% contre 2,7% et 2,3% anticipés jusqu'ici en raison de l'impact croissant de la guerre en Ukraine. L'inflation a été propulsée à des plus hauts historiques en raison de l'offensive russe et des sanctions occidentales qu'elle a entraînées. Bruxelles a relevé ses prévisions de hausse des prix à la consommation à 7,6% en 2022 et à 4% en 2023 contre 6,1% et 2,7% attendus précédemment dans les 19 pays partageant la monnaie unique européenne. Dans l'ensemble, l'économie en zone euro devrait poursuivre son expansion, mais à un rythme nettement plus lent que celui prévu lors des dernières prévisions publiées en mai, souligne l'exécutif européen. Cependant, la Commission prévient que la situation pourrait encore empirer en cas d'interruption des approvisionnements de gaz par Moscou, l'Europe restant encore très dépendante des hydrocarbures russes. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a déclaré que le président américain Joe Biden se rendait dans la région dans le but d'amener les dirigeants saoudiens à injecter de nouveaux approvisionnements en pétrole sur le marché mondial de l'énergie. Biden est principalement venu pour persuader les pays du Golfe Persique de produire et d'exporter davantage de pétrole et de gaz, a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion du déclenchement de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que les États-Unis mènent une guerre contre la Russie en Ukraine et entraînent avec eux tous les pays de l'Europe qui commencent à en souffrir. Les États-Unis ne peuvent pas permettre à la Russie d'être victorieuse. Aujourd'hui, leur premier objectif est d'assurer une alternative au pétrole et au gaz russe en Europe. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que Joe Biden est également venu dans la région pour s'assurer que les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël et de son projet de normalisation avec les pays du Golfe Persique. Il n'a rien à offrir au peuple palestinien, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que beaucoup d'espoirs et d'illusions se sont construits autour de cette visite, mais que les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'en 2003 et 2006. Le vieux président Biden, par son âge et ses gestes, est l'image d'une Amérique vieillissante, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Nasrallah s'exprimait pour la première fois depuis l'envoi de drones dans la zone du champ de Karish, qu'Israël prétend être dans sa zone économique exclusive, mais que le Liban conteste. La résistance, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah, est la seule force dont dispose le Liban pour obtenir son droit au pétrole et au gaz. Les capacités de la résistance sont aujourd'hui sans précédent. L'esprit combatif est plus élevé que jamais, a-t-il déclaré. Nous avons diverses capacités sur terre, sur mer et dans les airs, et toutes ces options sont ouvertes, a-t-il ajouté. Israël est incapable de mener des opérations terrestres contre le Liban, a-t-il déclaré, ajoutant que le régime sioniste avait fondé son seul espoir sur les frappes aériennes. Le secrétaire général du Hezbollah s'est adressé au ministre israélien des Affaires étrangères, Benny Gantz, en disant « Vous menacez le Liban alors que votre armée n'a pas réussi à avancer de quelques mètres dans la bande de Gaza assiégée. Votre menace d'envahir Beyrouth et d'autres villes du Liban est insignifiante », a-t-il déclaré. Selon le secrétaire général du Hezbollah, le seul moyen de sauver les Libanais est d'extraire du pétrole et du gaz, ajoutant qu'il s'agit d'une opportunité en or pour le pays. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que si le Liban n'était pas autorisé à extraire du pétrole et du gaz des champs maritimes bordant les champs palestiniens occupés, personne ne le serait. Si vous voulez arriver à une formule où ce pays ne peut pas profiter de ses gisements, alors personne ne sera autorisé à extraire du gaz et du pétrole et personne ne pourra vendre du gaz et du pétrole, a-t-il déclaré. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré qu'il ne considérait pas l'envoyé américain chargé des négociations indirectes entre le Liban et Israël comme un médiateur, mais plutôt comme un parti qui travaille dans l'intérêt d'Israël et fait pression sur la partie libanaise. Les États-Unis, a-t-il également ajouté, ont pratiquement lancé une guerre en Ukraine contre la Russie et tentent de réduire les revenus de la Russie provenant des exportations de pétrole et de gaz. Seyed Hassan Nasrallah a ensuite conseillé à Biden de mettre fin à la guerre contre le Yémen et de donner aux Yéménites la possibilité de parvenir à une solution politique au lieu de prolonger la trêve. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a en outre déclaré que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis combattaient le Yémen au nom des États-Unis. Tous les Libanais conviennent que la seule façon de résoudre la crise économique nationale est d'extraire et de vendre le gaz maritime, a-t-il ajouté.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Ces derniers jours, le tandem américano-sioniste a multiplié ses manœuvres dans la région du Moyen-Orient dans le cadre de l'établissement d'un système régional de défense aérienne en collusion avec certains régimes arabes à riverains du Golfe Persique. Et bien entendu, alors la prochaine visite du président américain Joe Biden s'inscrit dans ce cadre et l'entité israélienne, profitant de la normalisation avec certains pays arabes de la région, en effet, tente de donner un coup d'accélérateur à ce plan qui s'inscrit, bien entendu, dans le cadre de la création d'une OTAN arabo-israélienne. Et pourtant, la République islamique d'Iran et l'axe de la résistance en général a menacé en effet de riposter avec force à toute manœuvre dans ce sens et bien entendu en effet des divergences de vues persistent toujours dans ce contexte parmi les pays de la région qui craignent en effet cette riposte ferme de la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce projet américano-sioniste, les tentatives, en effet, de certains pays de la région et, bien entendu, alors la visite du président américain dans la région et la perspective des évolutions à venir dans ce cadre, dans le cadre de la création, en effet, de cette OTAN arabo-israélienne basée sur la DCA intégrée pour faire face à la présumée menace des balistiques et des drones de la République islamique d'Iran. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Sur fond d'appels de détresse lancés ces dernières heures, depuis le Caire et Doha, en direction de Gaza, appel qui supplie la résistance palestinienne de ne pas tirer profit de l'occasion inouïe qui se présente à elle et qui consiste à lancer une toute petite salve de 3 roquettes de garage. Pour reprendre l'expression du ministre ukrainien de la Défense contre Tel Aviv, ou faire envoyer ses commandos de Jenin faire sauter un petit pétard en plein Rots, rien qu'au bien réveiller le somnambule Biden qui arrive d'ici les heures à venir et lui rappeler que sa présence en Palestine occupée, où il veut lui aussi, comme ses prédécesseurs, éviter le naufrage d'Israël, ne servirait à rien. Le sioniste Lieberman, ex-chef de la guerre et de la diplomatie, vient de faire un terrifiant aveu qu'on a toutes les raisons du monde de croire ne pas être venu que de lui. En lieu et place d'une défense aérienne composée de radars d'alerte précoces, de missiles intercepteurs US-Israël répartis quelque part entre Manama, Abu Dhabi, Riyad et Tel Aviv, une DCA qui marcherait à partir d'une base de partage de données numérisées qui permettrait de faire du ciel des normalisateurs, sorte de couches superposées propres à protéger, le moment venu, les territoires occupés de la Palestine contre des milliers de drones et de missiles de la résistance, le sioniste propose un marché économique commun où prendraient part Utre, Bahreïn, Émirats et éventuellement l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, un marché interconnecté par voie ferrée qui pourrait, dit Lieberman, nous apporter économiquement et sécuritairement. Le fait que le gourou sioniste qui défendit en 2009 une frappe nucléaire contre Gaza et qui recommandait de faire noyer les Palestiniens en Méditerranée en soit venu à réduire un aussi ambitieux plan militaire de nature à générer des milliards de pétrodollars pour Israël en un marché commun. Cela équivaut à une grosse marche arrière. D'ailleurs, il n'est pas le seul. De Washington à Tel Aviv, cette OTAN anti-Iran axée sur une DCA intégrée semble faire bien plus de peur à ses initiateurs qu'aux partis visés, en l'occurrence l'axe de la résistance. Au point tel que l'Institut Kinsey tire la sonnette d'alarme à l'adresse de Biden et le met en garde contre toute provocation à l'adresse de l'Iran et de ses alliés. Un système de défense commune qui exclurait l'Iran fera du tort à l'US Army et ses troupes. Un nombre important d'analystes déconseille au président Biden d'avancer des plans qui entraîneraient de mauvaises conséquences pour Washington, invitant ce dernier à ne jamais songer à provoquer l'Iran et ses alliés via notamment un soutien au projet d'un bouclier de défense aérienne commune. Car de Yémen à Gaza, l'Amérique lourdement impliquée dans la guerre contre la Russie en Ukraine a besoin d'une accalmie totale au Moyen-Orient qui reste en dépit de toutes les prévisions de ces dernières années sur le pétrole de schiste et les capacités à en produire la source immédiate de l'énergie pour l'Occident. Un bouclier antimissile anti-drone sait déjà se placer en une posture défensive, comme pour rappeler à ceux que le camp d'en face y réagisse. Les 4 années de Trump et l'échec de la politique de pression maximale l'ont prouvé, l'Iran et ses alliés rognent les freins pour réagir.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter nos invités. Pour cette émission, nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris avec Mme Maïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Idani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, je suis à Damas en fait.
Très bien.
Bonjour aussi à l'équipe, à vous-même et à M. Luc Michel.
Madame Idani, l'actualité régionale largement dominée par ce projet américano-israélien d'établir une DCA intégrée qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre alors d'une OTAN arabo-israélienne, sous l'impulsion, bien entendu, de l'administration américaine. Et dans ce contexte, la visite du président américain, bien entendu, s'inscrit dans ce cadre. Alors, selon de nombreux analystes, ce projet du tandem américano-israélien de créer une DCA pour faire face à la présumée menace iranienne s'avère irréalisable. Pourquoi ?
En fait, Biden se dépêche d'aller dans le Moyen-Orient pour différentes raisons. D'abord, selon certaines revues américaines, ils disent que c'est pour rectifier aussi sa politique au Moyen-Orient, parce qu'apparemment, il a commis beaucoup d'erreurs, notamment avec l'Arabie saoudite. Il a réussi à antagoniser Mohammed bin Salman, qui a commencé à avoir des relations avec la Chine et avec la Russie. Il a antagonisé aussi d'autres responsables du Moyen-Orient, notamment les Émirats ou aussi le roi de Jordanie. En fait, il se dépêche d'y aller. Ça, c'est selon les analyses d'une revue américaine. D'un autre côté, on sait que d'abord, Biden, il y a des élections rapidement au début de l'automne. Il perd beaucoup en popularité et aussi en confiance au niveau des Américains et au niveau surtout de l'AIPAC. Donc, il va essayer de se donner le moyen d'avoir ses soutiens, surtout de l'AIPAC, d'abord en visitant Israël et l'État fantôme d'Israël qui occupe la Palestine, et aussi essayer de le protéger autant qu'à faire, autant que possible, donc par la création d'une coalition qui a commencé déjà avec Trump, rappelons-le, avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en sous-table, mais maintenant elle est très clairement, et surtout avec la Jordanie. Il faut savoir aussi que l'agression contre la Syrie se situait aussi dans ce cadre, puisque c'était à la demande aussi d'Israël, à la fois l'agression contre la Syrie, mais aussi l'agression contre le Liban en 2006, qui visait particulièrement le Hezbollah. Donc en fait, toutes ces manœuvres ont eu beaucoup d'échecs. Et puis maintenant, donc, il essaye de rétablir aussi la situation en s'alliant à nouveau les Israéliens, mais en s'alliant à nouveau Mohammed bin Salman, en fait, le responsable saoudien, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, et puis la Jordanie aussi, ajoutant le Maroc et l'Égypte, et avec tout ça avec Israël. En fait, tout ça pour rassurer Israël d'un côté, de l'autre côté, et pour couper le chemin aux accords et aux alliances, je dirais, iranienne avec la Chine et avec la Russie, et surtout donc pour mobiliser tous ces pays contre l'Iran en créant une sorte d'ennemi fictif, parce que l'Iran n'a jamais été ennemi avec aucun pays de la région. L'Iran a toujours été un pays ami, et même avec ceux qui lui vouer certaines inimitiés comme l'Arabie saoudite et comme les Émirats arabes unis, ils ont toujours présenté, l'Iran a toujours tendu une main, de dialogue et puis de coopération, en mettant en avant l'aspect le plus important, c'est que la sécurité dans la région doit se faire à part les pays de la région, et sans aucune intervention extérieure. Bon, bien sûr, l'État fantoche d'Israël lève le drapeau de l'arme nucléaire iranienne, alors que l'Iran a affirmé à plusieurs reprises haut et fort que de toute façon, nous n'irons pas à l'arme nucléaire, parce que d'abord, ce n'est pas du tout dans notre éthique, ce n'est pas parce que vous l'interdisez, mais c'est parce que ce n'est pas du tout dans notre éthique, et parce qu'il y a eu l'ayatollah Khomeini aussi a affirmé à plusieurs reprises que ce n'est pas du tout dans la logique de l'islam. Donc, en fait, c'est créer de toutes pièces un ennemi et pour agiter la peur et agiter aussi la nécessité de se faire aider par tous ces pays occidentaux pour qu'ils persistent dans la
région. Merci, Madame Midani. Je vous remercie infiniment. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à votre équipe et bonjour Madame Midani. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Monsieur Michel,
il faut comprendre oui. quelque chose, c'est qu'il y avait une contradiction interne qui agitait le bloc américano-atlantique en Europe et en Afrique. C'est que l'allié géopolitique principal, c'était l'adversaire économique principal, c'était la guerre économique Europe, Union européenne, qui est doublée de la guerre entre l'euro et le dollar. Mais à l'occasion du dossier ukrainien, cette contradiction interne s'est étendue au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des États sur lesquels les États-Unis comptaient pour former l'alliance qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient autour d'Israël, se sont détournés du bloc occidental. Il y a eu le sommet des États producteurs de gaz à Doha, avec l'Iran, avec la Russie, avec des États africains comme l'Algérie, la Guinée équatoriale, avec également le Venezuela. Et lors de ce sommet, à la grande surprise des Américains, le Proche-Orient n'a pas suivi les Américains dans leur hostilité à la Russie, mais au contraire, les Émiratis et les Qataris se sont rangés du côté des États producteurs de gaz pour reprendre le contrôle du marché du gaz. Parallèlement à cela, les Saoudiens, qui sont en liaison avec les Russes depuis plus de 2 ans, soutiennent également les Russes dans la guerre du pétrole. À partir de ce moment-là, les États-Unis tentent de rattraper le coup, c'est-à-dire de reconstruire sur une soi-disant menace iranienne qui est purement virtuelle et qui n'existe que dans les fantasmes de la propagande de Washington et de Tel Aviv, notamment sur l'arme atomique, comme Mme Mitani l'a dit. L'Iran a toujours précisé que pour des raisons éthiques, il ne voulait pas de l'arme atomique. Eh bien, on essaye donc d'aligner les anciens États arabes pro-occidentaux derrière Israël et les États-Unis sur la menace israélienne. Il faut annoncer qu'il y a un deuxième facteur dont Mme Mitani a parlé également. C'est les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis et qui vont peut-être être remportées par Donald Trump et les Républicains qui sont alliés à l'aile radicale, notamment avec le gendre de Trump, Jared Kushner, à l'aile radicale pro-israélienne de l'AIPAC. À partir de ce moment-là, il faut que Biden se présente en ami d'Israël et qu'il démontre son efficacité, c'est-à-dire en alignant une alliance arabe derrière les Israéliens.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Michel. Madame Midani, Monsieur Michel l'a rappelé, alors Américains et Israéliens tentent d'aligner certains pays arabes dans la région sur leur politique hostile à l'égard de l'Iran, sur leur politique d'iranophobie. Et pourtant, alors, les pays arabes sont de plus en plus nombreux, en effet, à prendre en quelque sorte leur distance avec ces politiques. À se rendre à l'évidence, en quelque sorte. Et dans ce contexte, tout récemment, dans une interview, le premier ministre jordanien a souligné que l'Iran n'a jamais été une menace, en effet, pour la région et pour la Jordanie. Ceci étant dit, Madame Midani, alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, alors, la véritable menace dans la région, c'est Israël. Alors, les agressions israéliennes contre la Syrie, les agressions quasi quotidiennes du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens, alors la violation de l'espace aérien libanais, l'assassinat des scientifiques nucléaires iraniens. Est-ce que ces tentatives, malheureusement, ne servent pas en quelque sorte c'est-à-dire en d'autres termes, pourquoi, alors je pose ainsi la question, pourquoi certains pays arabes, en effet, continue malheureusement de se laisser prendre dans le piège du tandem américain-israélien.
Bonne question, exactement, parce que ces États qui prennent des positions comme ça, juste à côté des Israéliens, En fait, ils se soumettent aux diktats américains et aux pressions américaines et européennes, négligeant eux-mêmes leurs propres intérêts et surtout les intérêts de leur peuple. Parce que, comme vous l'avez exactement et très justement dit, la cause de non seulement de l'instabilité, mais de l'agression, et qui est la pointe de l'agression dans toute la région, c'est cet État fantoche d'Israël qui a été construit sur la Palestine, en fait, en commençant par des massacres, des grands massacres, effectivement, provoquant des exodes de la population, en se faisant aider, rappelons-le quand même, par l'impérialisme britannique et l'impérialisme français à l'époque. C'est aussi ça, que tous les peuples de la région sont complètement, vraiment mobilisés contre Israël, que cet État ne pouvant jamais s'intégrer, non seulement être accepté par les populations, mais il ne peut jamais s'intégrer dans la région. D'où cette manifestation ou cette nouvelle politique qui a été entamée par Trump, qui est de dire, on va créer des États, ces États arabes, on va les obliger à créer un pacte avec l'État israélien et on va les obliger à être à côté de lui et les reconnaître, etc. Certains pays se sont soumis à ces pressions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples, leur propre peuple, refusent complètement, ce qui a fait qu'ils y sont allés pas à pas. Ça d'une part, et puis d'autre part aussi, maintenant l'Afghanistan, en fait, ce qui s'est passé en Afghanistan, où les Américains ont même laissé tomber leurs alliés comme des vieilles chaussettes, je dirais. Bon, ça a alerté tous leurs alliés dans la région, y compris donc qui n'avaient absolument aucune emprise populaire, mais ce sont les chefs de ces États qui ont été alertés et qui ont commencé à vouloir changer d'alliés parce que ils n'ont plus confiance dans l'allié américain. De la même manière, d'ailleurs, les alliés européens ont commencé aussi à s'éloigner des États-Unis, c'est qu'ils ont effectivement commencé cette guerre en Ukraine aussi, non seulement pour déstabiliser la Russie, déstabiliser l'Ukraine et la région européenne, mais aussi remobiliser à leur côté l'Union européenne qui commençait à prendre le large et à avoir des relations avec la Russie, la Chine, qui sont des relations d'égal à égal entre deux pays qui se reconnaissent. Et puis, donc, effectivement, l'ensemble de la région, l'ensemble de notre région, les agressions qui ont eu lieu contre la Syrie, contre le Yémen, comme vous l'avez bien justement d'ailleurs souligné, le point de provocation, le foyer de provocation le plus important, c'est effectivement cette entité israélienne qui est créée de toutes parts, accepté.
Merci.
Pourquoi les États qui sont à la solde des Américains l'ont accepté jusqu'à présent? Bon, ben, ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, ils se sentent un peu plus forts puisque ils ont des rapports avec la Russie, des rapports avec la Chine, qui sont des rapports autrement que des rapports vassalisants. De mettre à vassal, comme le fait les États-Unis. Ce sont des rapports d'égal à égal, reconnaissant la souveraineté des pays.
Merci infiniment, Madame Bidani. Je vous remercie infiniment. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, donc, alors certains pays arabes de la région sont soumis aux pressions américaines. Pourtant, alors, ils craignent, comme d'ailleurs l'entité israélienne, alors la riposte ferme de la République islamique d'Iran. D'autre part, alors, compte tenu du positionnement de la Russie et de la Chine sur les évolutions moyen-orientales, alors, quelle sera l'avenir et le sort de cette DCA, de cette prétendue DCA intégrée que l'entité israélienne et les États-Unis cherchent à établir dans la région du Moyen-Orient?
Il y a un double paramètre. Il y a tout d'abord le paramètre stratégique, c'est-à-dire que jusque maintenant, il y a une espèce de parité stratégique entre l'axe de la résistance et les sionistes, c'est-à-dire que ce soit le dôme de fer ou les chasseurs israéliens, ils n'ont plus la maîtrise du ciel du Proche-Orient. C'est un premier critère, évidemment, qui va contre cette décès intégrée. Mais la deuxième paramètre à prendre en considération, c'est ce qu'on peut appeler le paramètre Vladimir Poutine. Depuis maintenant les débuts de l'opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine a seulement un objectif en mer Noire et en Ukraine régionale. Il a un objectif géopolitique central qui est d'arriver au monde multipolaire, de mettre à mal le nouvel ordre mondial américain. Et donc, il est intervenu dans cette nouvelle, en particulier au Proche-Orient, il a mis à mal les plans américains. Les experts israéliens eux-mêmes, mais les experts russes aussi, disent que Poutine est le tsar du Proche-Orient, que c'est l'arbitre géopolitique de la région. C'est donc déterminant. C'est tout cela qui doit être pris en compte. C'est évidemment une révolution géopolitique qui a été commencée avec l'opération spéciale en Ukraine.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien de questions internationales depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 10e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Et quand tu domineras ton ennemi, célèbre ta victoire en lui accordant pardon et clémence. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, fait allusion à un très grand bienfait du Seigneur pour ses créatures, c'est-à-dire les sentiments humains, la générosité, le pardon ou la clémence. En effet, c'est un très grand bienfait de Dieu, le Très-Haut, pour les humains de leur donner la possibilité de remplir leur cœur avec l'amour, l'amitié et le respect pour son prochain et toutes les vertus morales, au lieu de faire de leur cœur un endroit pour la haine, la vengeance et les vices. Le cœur de l'homme doit être rempli de joie et non pas de tristesse ou de haine. La clémence est la manifestation de la pitié, de la compassion ou de la miséricorde montrée par une personne vis-à-vis d'une autre. Par contre, la vengeance est l'action de nuire à une autre personne ou à un groupe dans le but de punir ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. La vengeance est un acte d'origine émotionnelle, justifié par la frustration ou la haine d'une entité qui nous a causé du tort, directement ou indirectement. Les effets destructeurs et collatéraux de la vengeance sont généralement faciles à trouver. Parmi les textes anciens, on trouve la loi du talion qui cadre la vengeance en exigeant qu'elle soit proportionnée au tort causé par l'agresseur. Dans le cadre du contrat social, l'État refuse le droit des citoyens de rendre justice eux-mêmes. Seul l'État a le devoir et le droit de punir les malfaiteurs. Une punition juste et proportionnée est communément acceptée et la vengeance est alors désignée comme primitive et barbare. Lorsque la vengeance est opérée par une source extrême, comme une justice d'État, le vengé peut la vivre encore plus positivement que s'il l'avait opérée lui-même. Parce qu'il se sent en plus reconnu, soutenu ou protégé par la collectivité ou les circonstances. La satisfaction des victimes est particulièrement importante lorsque leur offenseur fait le lien entre sa punition et son comportement antérieur. Les traditions du noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, nous donnent des leçons du pardon, de la miséricorde et de la clémence. Les historiens de l'islam citent surtout le comportement du vénéré prophète après la conquête de la Mecque en 630 par les musulmans, dirigés par le prophète lui-même. Au jour de la conquête de la Mecque, le noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, a fait de ce jour le jour de l'amnistie et du pardon. Le jour de la conquête de la Mecque, un millier de soldats blindés sont entrés dans la Mecque avec le prophète. Lorsque Saad ibn Abada passé avec la bannière du prophète devant le chef des mécréants de la Mecque, Abu Sufyan, il a crié « Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le jour de couler le sang, le jour de vengeance, et Dieu humiliera les hommes du Quraysh. » Quand le messager de Dieu est arrivé là, Abu Sufyan lui a dit « Avez-vous donné l'ordre de nous tuer? Qui sommes vos parents ? Je vous demande par Dieu, au sujet de vos propres personnes, de les pardonner et vous êtes le plus bienveillant parmi les gens. » Le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, a dit « Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu honore Quraysh grâce à leur croyance. » Ensuite, le prophète a ordonné à l'imam Ali, béni soit-il, de prendre la bannière de Saad ibn Abada et être le messager d'amnistie et de miséricorde pour les habitants de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, le prophète s'est tenu à la porte de la Kaaba et a accordé une amnistie à tous. Il s'est tourné vers les chefs du Quraysh et a dit « Que dites-vous maintenant ?» Ils ont dit « Le bien et la grâce. Tu es notre frère et notre neveu qui est arrivé au pouvoir. » Le messager de Dieu a dit « Mais je dis ce que mon frère Joseph a dit à ses frères. Aujourd'hui, vous n'êtes pas blâmés. Que Dieu vous pardonne, car il est le plus miséricordieux. »